Donc nous nous retrouvons après cet intermède. Donc notre honoré commence sa grande carrière d'écrivain, de grand dramaturge. Il écrit dans tous les genres hein, d'ailleurs. On a vu, c'est le roman d'aventure, le roman fantastique, comme La peau de chagrin, par exemple, c'est un romancier anglais qui me vient plus à l'esprit. Donc, c'est des romans philosophiques, etc. Donc, tous les genres, ils font aussi du théâtre avec moins de succès. Hein. Là, le succès arrive, toutefois, bien que les Chouans est une réussite commerciale moyenne, hein, mais c'est la reconnaissance d'ores et déjà. Il rencontre Juliette Récamier, qui est un peu une légende, c'est une égérie des romanciers, notamment de Chateaubriand, voilà. Donc, je vais dire aussi dans son personnage, il est contrasté dans l'impression qu'il donne. Voilà. Les uns le voient un peu fruste, vulgaire, négligé, comme un. On parle d'un boucher, parce qu'il est. Il paraît avoir de l'embonpoint, et puis d'autres à l'inverse, et puis truculent, voilà. Les gens plus subtils, disons, voient sa finesse derrière l'apparence, sa subtilité. C'est un jeu qui donne pour le public. Voilà. C'est un dandy, on l'a dit, extravagant, vivant dans le luxe, dans une dépense, les vêtements. Voilà. Et puis, sa verve et son intelligence sont quand même reconnues. Voilà. Et sa vulgarité n'est qu'apparence. Voilà. Alors, il a beaucoup de. C'est un amoureux aussi. Il aime les femmes et c'est un peu un Don Juan. Hein, voilà, un Casanova. Il écrit, après les Chouans, La physiologie du mariage. Alors là, ça sera un succès. Et puis il fera une carrière, mais alors là, c'est plutôt à rattacher à sa période de travaux alimentaires, de critique, de journaliste, dans divers journaux, notamment les journaux d'Émile de Girardin. Alors là, je donne une description que je vais citer d'un contemporain, mais en fait amical. Gros garçon, œil vif, gilet blanc, tournure d'herboriste, mise de boucher, allure de d'horreur, mais conclusion, ensemble prestigieux. Voilà. Donc, il est dans le monde, il se fait remarquer déjà, il passe pas inaperçu. Hein, voilà. Et à cette époque, il rédige, il fait le nègre, hein, c'est-à-dire qu'il écrit anonymement, sous la dictée peut-être, en concours, avec Laure d'Abrantès, on l'a dit, la duchesse d'Abrantès, pour rédiger ses mémoires. Donc là, ça sera un grand succès, voilà. Elle est la veuve de Junot, hein, je l'ai dit, le maréchal de Napoléon. En 1831, La peau de chagrin, roman et conte philosophique, voilà. Alors il est surendetté, hein, parce qu'il mène un grand train de vie, toutes ses excentricités. Son hôtel particulier de la rue de Cassini est un vrai palais. Hein. Les meubles, les bibelots, les porcelaines, enfin. Et puis alors, il y a les vêtements, les chevaux, enfin. Il fait tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà. C'est le grand luxe. Frénétique. Alors, il rencontre, parmi ses rencontres féminines, Henriette de Castries. C'est une aristocrate, nièce du duc de Fitz James, donc un aristocrate anglais. Mais alors là, elle refuse de lui céder, pour reprendre l'expression qu'il utilise, lors d'un voyage en Italie, et d'ailleurs ils vont se séparer, elle refuse de déposer le corset, voilà. C'est une expression très, très, très amusante, on va dire. Et Il est à l'époque, donc en fréquentant cette aristocratie, après avoir été, semble-t-il, républicain dans les années 1830, là il devient vraiment ultra-royaliste et légitimiste. Et on est sous Louis-Philippe, donc il est opposant légitimiste. On sait qu'à cette époque, c'était la duchesse de Berry qui était revenue et qui avait été arrêtée, ayant tenté de fomenter une révolte contre son cousin et oncle Louis-Philippe. Donc il est pour la monarchie des Bourbons, Charles X. Donc c'est un vrai bagnard de la plume, comme notamment il fait beaucoup de dettes, eh bien il faut qu'il éponge ses dettes en produisant des livres pour ses éditeurs. Alors c'est un travailleur acharné. Pour donner un exemple de son emploi du temps, il dort de 6h à minuit, 18h à minuit, et ensuite il travaille 12 à 15h, c'est-à-dire jusqu'au lendemain midi, 2h, voilà. C'est un rythme acharné, il consomme des quantités de café pour tenir. Alors là, par exemple, pendant cette période, il produit le curé de Tours, les contes didactiques, drôlatiques, le colonel Chabert, la ferme abandonnée, voilà. Donc, mais ce sont autant de chefs-d'œuvre. Et puis alors, on fait un petit lien, là, puisque j'avais fait deux chroniques sur George Sand dans notre série 2015-2016. Alors, il y a cette rencontre de camaraderie avec. Il y a eu d'autres femmes avec George Sand, c'était une amitié de camarades, voilà. Et donc, par exemple, à propos des contes drôlatiques, ça ne lui plaît pas. Elle joue un peu les prudes, ça paraît étonnant quand on la connaît. Elle qualifie de « vous êtes un gros indécent ». Et alors, lui répond « vous n'êtes qu'une bête ». Mais elle ajoute « bien, notre amitié fut totale ». C'était une amitié fidèle entre eux. Donc c'est un dandy. Je l'ai dit, meilleur tailleur, meilleur bottier de Paris, tout ce qui brille, eh bien, voilà, il achète, il dépense, bien sûr, beaucoup plus qu'il ne gagne. Et alors là, il va faire une rencontre, j'en ai parlé, puisqu'on abordera sa fin de vie, avec Ève ou Eveline Hanska. Donc c'est une riche aristocrate polonaise, mais dont la famille est rattachée à la Russie, puisqu'ils vivent en Ukraine, donc sous l'autorité du tsar, hein, je pense. Voilà. Et donc vraiment richissime, avec peut-être 40 000 serfs, vous voyez, des domestiques, enfin. Elle a épousé Hanski, qui est ce riche aristocrate polonais. Elle-même, elle est, je crois, l'arrière-petite-nièce de Marie Leszczynska, qui était l'épouse de la reine effacée, épouse de Louis XV, voilà. Donc, origine brillante. Il a 32 ans, en 1831, il voudrait se marier, mais alors, bien sûr, il veut le haut du panier, hein. Il faut qu'il ait la fortune et l'aristocratie, lui qui n'a que 100 000 francs, qui n'a que des dettes, mais il a son génie, et ça vaut beaucoup dans la corbeille de mariage. Donc, il rencontre Ève Hanska, née Rewiska, donc je l'ai dit, illustre famille polonaise. Elle a épousé le comte Hanski, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle a dû l'épouser vers 15-16 ans, il doit en avoir 40 à peu près, voilà. De la haute noblesse de Voligny, hein, voilà. Donc ils vont échanger des lettres, parce qu'elle lit, elle est très cultivée. Elle parle probablement, elle parle sûrement l'anglais, le français, ouais. Voilà, brillante éducation. Et donc, et c'est une lectrice passionnée. Et donc, eh bien, elle lui écrit, mais anonymement, elle lui écrit en signant « l'étrangère ». Donc il y aura un petit jeu de Balzac, lit ses lettres, et il y aura un petit jeu de petites annonces. Alors il fera passer une petite annonce dans un journal diffusé en Russie, et donc pour l'inviter à se faire connaître, voilà. Ils finiront donc bien sûr par... elle finira par s'identifier, par se révéler, quoi. Et bien, il y aura, après une abondante correspondance, hein, très très riche et très très belle, déjà, les lettres sont aussi une œuvre littéraire en soi, les œuvres de Balzac, Alors, à propos de, je voulais dire aussi à propos de George Sand, pour y revenir, ils sont pas de même niveau en tant que romancier. Il est plus important, plus grand qu'elle, hein, y a pas de doute. Mais les nombreuses correspondances de George Sand en font aussi elle-même une Sévigné du 19e siècle. Hein, c'est cette expression qui convient. Hein, des gens écrivaient beaucoup à l'époque, hein, voilà. Et donc, ces correspondances de Balzac, d'ailleurs, un moment T de sa vie, l'une de ses maîtresses, qui jouait aussi le rôle de gouvernante, eh bien, avait volé les correspondances de Balzac pendant qu'il était en voyage, et elle l'a fait chanter, voilà, pour, il avait versé 5000 francs pour acheter les lettres de Madame Anska, voilà. Donc ils vont finir par se rencontrer, bien du vivant de l'époux Anski, qui est peut-être pas complaisant, mais bon, ça se passera très discrètement. Ils se rencontrent à Neuchâtel, en Suisse, le 25 septembre 1833. C'est une rencontre platonique, apparemment. Voilà. Et donc, c'est très romanesque. J'ai dit, j'étais contacté à la suite d'une petite annonce, hein, que Balzac avait fait passer pour accuser réception de ses lettres et l'inviter à se faire connaître. Voilà. Donc elle laisse tomber son mouchoir, il ne l'a jamais vu, elle est sur un banc du square, elle laisse tomber son mouchoir, il ramasse le mouchoir, le lui rend, et elle est en train de lire un roman de lui. Voilà. Et donc c'est le coup de foudre, un coup de foudre réciproque. La deuxième rencontre est à Genève, à Noël 1833, entre Noël et février 1834. Là, il consomme, on peut dire, voilà. La liaison est parfaite. Voilà. Et alors, à partir de là, il y aura une abondante correspondance qui est un chef-d'œuvre de la littérature, avec une tournure érotique, mais très, très discrète, hein. C'est de l'érotisme finement distillé, on va dire. Voilà. Et Balzac écrit, par exemple, à cette époque, il n'y a que les artistes qui soient dignes des femmes, parce qu'ils sont un peu femmes. Voilà. Désormais, il est célèbre, c'est le succès. Il y a des feuilletons. On sait qu'à l'époque, les romans paraissent en feuilletons. Eugène Sue, Balzac, Sand et autres. Les romans paraissent. Le public suit d'un épisode à l'autre. Hein, ça paraît par épisode. Alors, c'est un vrai titan, je l'ai dit. C'est un. Il passe ses nuits à travailler, et puis, je lui dis, pour payer ses dettes, il a besoin, mais aussitôt, il dépense encore plus, quoi, voilà. Et par exemple, il signe des contrats avec les éditeurs, avant d'avoir produit ses œuvres, donc il est obligé de produire, parce que il est harcelé par les éditeurs, il est poursuivi par les créanciers, enfin, voilà. Donc, il ingurgite des litres de moka, pour tenir. Et il déclare, chaque jour est un Austerlitz de la création, voilà. Chaque nuit, il crée ces quelques 2000-2500 personnages qui constitueront la comédie humaine, ces divers romans, et eh bien, pour se rappeler d'ailleurs, c'est anecdotique, je l'ai dit, c'est des poupées, il a diverses poupées habillées avec, pour se rappeler, voilà. Pour bien les mémoriser. 1834, c'est César Birotteau, voilà, etc. Donc, eh bien, là, il manifeste déjà la recherche de l'absolu, autre roman, Séraphite, enfin, voilà. Tous ne sont pas très connus, quoi, bien sûr. Signe d'épuisement, déjà, il commence, ses cheveux blanchissent, il perd ses cheveux, oui. C'est 1835, le père Goriot, voilà. Je lui ai dit, il travaille jusqu'à 20 heures par jour, 25 heures. Voilà. Et il y a quand même des mauvaises critiques, mais bon, parce que des critiques médiocres considèrent que peut-être l'abondance signifie la médiocrité. Or là, c'est pas le cas, c'est une pluie de chefs-d'œuvre. C'est à la chaîne, mais c'est des chefs-d'œuvre. Voilà. Il poursuit intensément, il prend par exemple des secrétaires qu'il épuise, il les épuise à la tâche, notamment Jules Sandeau, alors c'est toujours le lien avec George Sand, Jules Sandeau qui est l'amant de George Sand, vous savez ça donnera le pseudonyme, hein, George et puis Sand, et qui fut l'ex-amant de Marie d'Orval, d'ailleurs il s'est... voilà, et l'actrice. Et donc il épuise parce qu'il faut faire des recherches nombreuses, voilà. Et il est toujours donc de notre Balzac, toujours dandy, dans le luxe, voilà. Il y a un voyage à Vienne où il rencontre à nouveau Madame Anska. Là, il reçoit, il vient avec son valet de chambre, voilà, Auguste. Il est accueilli chaleureusement par l'aristocratie viennoise, voilà. Il rencontre le prince de Metternich, voilà, les Rothschild. Voilà. Et donc, ces brouillons, par exemple, pour ses secrétaires, c'est une horreur, hein, parce que, eh bien, ce sont de multiples arborescences, hein, c'est pas du tout tout propre, quoi. Il y a des tas de renvois dans les marges, enfin, c'est géant. Donc, les créanciers le poursuivent toujours, ils se cachent, ils changent de logis, ils se déguisent, voilà. Et il continue dans ses tentatives de création d'entreprise. Par exemple, il achète la Chronique de Paris, qui est un journal. Et alors là aussi, c'est un échec, parce qu'il faut voir avec ses collaborateurs, c'est vraiment c'est farfelu. Hein, voilà. Et donc, il n'y a pas d'organisation. C'est on dirait un poète, c'est un artiste. Hein. Il n'est pas du tout homme d'affaires, c'est pas un gestionnaire. Il est même emprisonné un temps, mais alors là, il refuse de faire le service dans la garde nationale. C'est une, comment dire aujourd'hui, peut-être une réserve, quoi, obligatoire. Et en avril 1836, il ne veut pas être un soldat citoyen, voilà. Mais c'est un emprisonnement confortable, voilà. Alors là, il écrit à cette époque Les Illusions perdues. En 1837, toujours un petit peu le lien avec notre George Sand, il fait un voyage à Nohant. Et pour reprendre l'expression de Flaubert, c'est la rencontre des deux grands hommes. Et alors là, il découvre le tabac d'Orient. Le café ne lui suffit plus. Et un tabac d'Orient très fort, qui est un excitant, puissant. Voilà. Donc, haute secrétaire, par exemple, là, après Jules Sandeau, un certain Laurent Jean, qui devient son secrétaire. Alors là, c'est un bon secrétaire, mais alors très original, très farfelu, mais fidèle, hein, et efficace, qu'il appelle mon chéri, mon aimé. Alors il n'y a rien d'équivoque, hein, c'est de la simple familiarité. Donc, bon, il s'installe à Poissy, rue Basse. Là, c'est pour se cacher de ses créanciers sous un nom d'emprunt. Il écrit la rabouilleuse, voilà, ou Ursule Rinouet, voilà. En 1841, eh bien, il signe un contrat d'édition avec un collège de libraires pour l'ensemble de ses œuvres, hein, de la Comédie humaine. Alors le Kantensky meurt et voyage à Saint-Pétersbourg en 1843, accueil triomphal de l'aristocratie polonaise. En 1845, enfin, peut-être pas là, c'est un peu détaillé. Bon, il rencontre à nouveau Ève à Dresde, voilà. Ils font un voyage en Italie avec Ève donc Honoré, Ève, et puis la fille d'Ève, Anna, et le fiancé de celle-ci. Alors là, il écume les antiquaires, hein, voilà. Il achète son hôtel rue de Fortuné, qui sera sa dernière demeure. Sa santé commence de décliner. Là, il écrit le cousin Ponce, la cousine Bête, les paysans, voilà. Et puis, donc, eh bien, ça sera bientôt la fin de vie, hein, d'Honoré. Nous le retrouvons, oui, après le nouvel intermède, qui se situe, alors là, c'est un épisode d'Eugénie Grandet, hein. Vous savez, Eugénie Grandet qui, eh bien, était victime en quelque sorte de son père, riche, tourangeau, avare, et elle a une histoire d'amour avec son cousin. Son cousin sera ruiné et le père, eh bien, éjecte le cousin en quelque sorte, hein. C'est cet épisode que nous découvrons.